apprenez à dire « je », à dire « moi ». À dire moi je, parce que je vous connais, hein, vous êtes trop bien élevés, vous avez écouté sagement celles et ceux, à commencer par vos parents, qui vous ont dit toute votre vie de vous méfier des gens qui parlent un peu trop d'eux. Et jamais, je vous connais, il ne vous est venu à l'esprit que c'était peut-être une ruse pour que vous vous taisiez pendant qu'ils parlaient. Alors vous les écoutiez sagement en train de parler d'eux-mêmes, parce qu'il y a plein de gens qui parlent d'eux, mais celles et ceux, surtout ceux, on va pas se mentir, qui y parviennent, ils ont acquis ou ils se sont arrogés ce qu'on appelle une autorité, c'est-à-dire que leur parole est légitime. À un moment donné, ils l'ont décidé. Ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, mais surtout ce qu'ils sont, ils ont compris que ça avait une valeur. Ils ont compris qu'ils avaient le droit de le partager et qu'ils n'avaient pas à s'excuser. En revanche, ils vous diront à demi-mot de ne pas le faire parce que c'est vulgaire. Ils vont tout faire pour vous rabaisser. Ils vont vous dire qu'il vaut mieux prendre des détours, aller un petit peu plus loin que le bout de son nez, apprendre des autres qui ont des choses bien plus intéressantes à raconter et qui sont précisément ceux qui n'hésitent pas à parler d'eux-mêmes. Ceux qui s'autorisent à un moment à croire que leurs paroles compte, apprenons, même si c'est jamais évident, à dire je, à dire moi je.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité a mis un certain temps avant d'oser dire je. Elle est l'autrice, notamment, des culottés, best-seller mondial de la BD paru il y a 5 ans et qui s'est écoulé à plus de 750 000 exemplaires. Les Strates, son nouvel album, sort aujourd'hui. C'est une succession d'événements marquants qui ont fait d'elle ce qu'elle est. C'est une réussite. Bonjour Pénélope Bagieux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Ce matin. Pourquoi dire je, ça va pas forcément de soi?
Bah déjà, alors pour toutes les raisons que vous venez de dire, beaucoup mieux que tout ce que je pourrais dire, mais parce que effectivement, on se dit que pourquoi, en quoi mon histoire à moi est intéressante alors qu'elle est banale, alors que j'ai vécu ni plus ni moins la même chose que les autres, et qui a un côté assez prétentieux, presque arrogant, à raconter sa vie, alors qu'on pourrait consacrer son temps et son énergie à raconter la vie de gens plus intéressants.
Et dans quelle mesure c'est de plus en plus possible, Pénélope, dans cette époque qui semble encouragée à parler de soi, à dire je, à raconter son histoire?
Je pense que d'autres ont ouvert la voie, en fait, tout simplement, et qu'elle donne, je dis elle parce que je pense qu'on a bien cerné le problème quand même, qu'elle donne la possibilité de le faire en disant, moi je trouve que mon histoire vaut la peine d'être racontée, et je pense que la tienne aussi.
Précisément, pour vous, qu'est-ce qu'il a fallu, quelle femme il a fallu pour que vous osiez enfin parler de vous, pour lever cette réticence, cette méfiance vis-à-vis de l'autobiographie dont vous parlez volontiers?
J'aurais du mal à donner un nom, mais il se trouve que ça fait quand même un moment que je lis des bandes dessinées, que je lis des romans, que je vois des séries écrites à la première personne par des femmes qui me donnent à voir des vies qui sont pas la mienne, qui sont la leur, qui me passionnent, dans lesquelles je tombe complètement. Et où pas une seconde je me pose cette question de est-ce que c'est prétentieux, est-ce que c'est arrogant. Je me dis on m'a emmené quelque part et j'ai découvert un personnage et en fait elle parle d'elle et on s'en fout un peu.
Et alors on ressent quoi précisément quand on lève cette réticence, quand on revient sur des choses qu'on a vécues soi-même? Ça fait quoi?
C'est très facile. En fait, c'est ça la découverte de se mettre à l'autobiographie, c'est qu'est-ce que c'est facile de parler de soi. C'est le personnage, en tout cas en bande dessinée. Déjà, c'est le personnage le plus facile à dessiner au monde.
Ah, c'est vrai?
Bah oui, c'est la marionnette là, qu'on connaît le mieux, en fait. Je pense que c'est vraiment comme être une actrice qui incarne son propre rôle dans sa propre biographie, quoi. C'est que moi, je me connais par cœur. Je connais ma tête, je connais mes expressions de visage. Je sais faire ma tête mi-interloquée, mi-énervée. Et surtout, j'ai pas de scrupules à maltraiter le personnage. C'est que je peux me permettre d'être irrespectueuse, en fait. On s'en fout, c'est moi.
Et à quel moment c'est devenu nécessaire de revenir sur le passé pour vous?
En fait, ça s'est fait un peu différemment. C'est que j'ai écrit ces histoires pour moi. C'était un peu mes récrés pendant que je faisais d'autres choses. Pendant des années, certaines histoires, je les ai écrites il y a 7 ans. Et c'était uniquement agréable à écrire. Je trouvais ça facile, agréable. J'aimais bien l'idée que je mette en dessin des souvenirs que je connais par cœur. Et puis quand j'ai eu cette accumulation d'histoires, alors je me suis posé toutes les questions que vous avez posées plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire, mais pour qui tu te prends à penser que ça peut être un livre?
D'autant que dans ces strates, il faut le dire, Pénélope Bagieux, vous revenez sur certains épisodes de votre vie de petite fille et d'adolescente, et notamment sur deux agressions sexuelles que vous avez subies à 9 et 17 ans. Pourquoi c'est si important d'en parler maintenant?
Déjà, je trouve que c'est la meilleure façon de lever le silence et d'avoir tellement peu honte, ce qui a longtemps été le cas, que j'en fais même un livre. Et je trouvais que le point commun des agressions que je raconte dans le livre, sachant qu'il y en a même 3, c'est la honte. C'est la honte, mon incapacité à la raconter. Même quand on me tend la main pour me demander d'en parler, je préfère protéger les agresseurs.
C'est pour ça qu'on choisit de se taire.
Bah oui, bien sûr, par peur d'avoir honte. Et vraiment, pour laver la honte, faire un livre et se dire « je me dessine en train de vivre des agressions sexuelles », alors ça, c'est quand même... Là, j'ai vraiment annulé toute honte.
Et puis peut-être, et surtout parce que la société dans son ensemble ne nous encourageait pas à le faire, on parlait la semaine dernière avec l'autrice et réalisatrice Ovidie de viol ordinaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Pénélope Bagieu ?
Mettre le mot agression ou viol sur ce que c'est, ça prend du temps. Et par exemple, dans les strates, ce que j'essaye de faire, c'est aussi faire le parallèle entre des histoires qui se répètent à l'infini, qui sont banales, qui sont anodines.
Oui, c'est ça l'ordinaire.
Ouais, c'est de se dire... ça et le fait que je pense que ça fait partie de la vie de l'immense majorité des femmes et que c'est, tant qu'on met pas le mot dessus, on se dit que c'est un accident de parcours, un débordement, un petit incident.
Et tant qu'on comprend pas que ce qu'on a vécu, c'est pas une exception, ça fait partie d'un système de domination.
Oui, et puis à tout âge, c'est ça qui est quand même... Parfois, on me demande quel est le bon âge pour lire le livre, et je dis pas trop tôt parce que c'est vraiment horrible ce qui se passe dedans. Après, je me dis mais moi j'étais jeune, donc je raconte des choses qui arrivent à des enfants, en fait, ce qui est quand même un peu.
Votre conscience féministe, comment est-ce qu'elle s'est construite, forgée, par quelle strate est-ce qu'elle s'est constituée?
Alors, je me rencontre rétrospectivement par les actes, clairement, plus que par les mots, puisqu'on parlait pas du tout de ça chez moi, mais j'ai quand même été élevée par une mère célibataire, avec une sœur, avec une espèce d'archipel autour de moi de grand-mère et de...
Oui.
Voilà, du coup, par ce que je voyais et par le fait qu'on m'a jamais dit que quelque chose était impossible parce que j'étais une fille, j'ai toujours vu un microcosme de femmes tout géré. Et...
Pour autant, c'est intéressant parce que vous racontez qu'adolescente, vous ressentiez le besoin d'être validée, ce sont vos mots, par le regard masculin. Se libérer de ce regard-là, c'est passé par quoi ?
Déjà, c'est pas complètement passé. Et puis, ça tend à aller mieux avec l'âge, quand même. Mais c'est très long, c'est très lent. Et puis, j'arrive pas complètement à m'en défaire, quand même.
Quelle adolescente est-ce que vous étiez ?
J'étais bien, bien courageuse. J'étais un peu comme toutes les adolescentes, c'est-à-dire je faisais comme je pouvais pour traverser ce tunnel épouvantable qu'est l'adolescence, mais qui reste un tunnel, donc ça, il faut le savoir, quoi.
Mais c'est vrai que c'est ce qui frappe dans les strates, c'est que c'est une adolescente, et c'est passionnant, qui n'hésite jamais à oser. Et c'est central chez les femmes dont vous racontiez les histoires d'enculottées, c'est cette capacité à oser. D'où elle vient chez vous? Comment elle est née? Vous en parlez un peu dans le livre, d'un événement.
Elle est née, je pense, par le fait qu'on m'a maintenue dans l'illusion, petite et adolescente, que rien n'était impossible pour moi. Et je pense que vraiment, ça peut suffire.
Oui, c'est cette illusion qui apparaît au grand jour avec l'effet nounours,
oui,
qu'il faut nous raconter.
Mais quand j'étais petite, pendant quelques années, je suis allée au ski avec mes parents, et on m'a inscrite pour passer mon flocon, qui est le premier pins de l'école du ski.
Trop mignon.
Et j'ai foiré mon flocon, parce que j'étais pas bonne du tout.
Non, mais ça arrive, Pénélope.
Voilà. Non, mais bon, faut quand même savoir que pour avoir son flocon, il faut chausser ses skis et savoir se mettre en chasse-neige, donc c'est quand même pas technique.
Même mais pas besoin d'être parallèle.
Non, vraiment, c'est pour encourager les enfants à aimer être dans la neige. Et moi, j'ai raté le flocon. Bon, on est un club assez sélect, les gens qui avaient raté le flocon, mais on m'a pas dit que j'avais raté le flocon, parce que les choses sont bien faites. On m'a donné un autre badge qui s'appelle l'ourson, qui est celui qu'on donne aux enfants qui ratent, quoi, pour que voilà. Sauf que moi, mes parents m'ont pas dit que c'était le lot de consolation. Ils m'ont dit que c'était un prix spécial, que j'avais eu un prix comme un prix spécial à Cannes. Quoi.
Le prix spécial du jury.
Le prix spécial du jury pour mon chasse-neige raté. Et je l'ai pas du tout questionné. Et à partir de là, j'ai commencé ma vie d'enfant et d'adolescente.
Fondée sur l'illusion d'un pins,
en me disant, moi je suis spéciale, je sais faire le truc que les autres ne savent pas faire, et ça m'a donné une espèce de, dans certains domaines, de confiance en moi complètement inébranlable, et tardivement j'ai découvert que le nounours c'était le lot de consolation des enfants pas très doués, mais c'était trop tard, c'est bon, le bien était fait, quoi.
Il vous est arrivé de vous dire que vous auriez pu oser plus, que vous pouvez encore oser plus?
Déjà, je me fais des petits high five toute seule de me dire que j'ai fini par faire ce livre. Je pense que c'est quand même, je l'aurais pas fait il y a 10 ans, c'est sûr. Il y a 10 ans, j'aurais été tellement paralysée par ce que ça dit de moi, ce qu'on allait penser de moi. Quand même, l'autobiographie, c'est dommage. Je suis contente d'atteindre 40 ans et de me dire, mais en fait, je m'en fous.
Qu'est-ce qui vous reste à oser, au fond?
Aller plus loin, je pense toujours dans le fait que la seule chose qui compte, c'est ce qui me fait plaisir et qui fait plaisir aux gens que j'aime autour de moi, et que vraiment, vraiment, il y a des gens à qui j'arriverai jamais de toute façon à faire plaisir, et ça sert à rien d'essayer d'être validé, comme je dis dans mon livre, alors pas forcément physiquement, mais d'être validé par des gens qui de toute façon me donneront jamais ça.
C'est vrai que dans cette émission, il y a une qui ose tout, hein, peut-être un peu trop d'ailleurs, et qui a inventé le concept de valider, vous la connaissez évidemment, c'est la culture. Et son actualité pantouflarde, frileuse et pétocharde, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 10 novembre?
Elle tourne. tourna la tête vers le ruisseau. Même maintenant, au milieu de l'été, l'eau se précipitait sur les rochers.
Mais de lumière après le Goncourt, attribué à Mohamed Mougarsar la semaine dernière, les éditions Philippe Ray doublent la mise grâce à Joyce Maynard et son roman Où vivaient les gens heureux, qui vient de remporter le Grand Prix de littérature américaine. Deuxième récompense majeure de la saison raflée par cette maison indépendante créée il y a 20 ans. Le prix salue un livre d'une grande subtilité, à la fois réflexion sur le couple et sur la famille et portrait de ce dont sont faites nos vies face à un monde et une société en perpétuel mouvement. C'est grand.
Christo, il est là quelque part, c'est fabuleux.
Christo. Un triomphe pour l'Arc de Triomphe. D'après un rapport rendu public hier, 6 millions de visiteurs se sont pressés pour venir admirer de près ou de loin l'Arc de Triomphe empaqueté, l'œuvre posthume de Jeanne-Claude.
Merci.
Et Christo, réalisé au mois de septembre dernier. Le rapport précise aussi que 63 500 visiteurs ont même acheté un billet pour monter jusqu'au sommet de l'édifice autofinancé. Le projet avait été réalisé avec 25 000 mètres carrés de tissu bleu argenté recyclable et 3 000 mètres de corde rouge recyclable elle aussi. C'est joli.
Je suis comme je suis.
Par ici, les Moustakis, récompensant chaque année depuis 11 ans un jeune artiste de la chanson française, indépendant ou autoproduit. Le prix Moustakis vient d'attribuer ses lauriers 2021 et c'est le jeune chanteur Vaslo qui fait coup double cette année en repartant avec le prix du jury et celui du public. Auteur, interprète, guitariste, clarinettiste, il déploie dans son premier disque À travers les regards une pop folk tout en douceur et intensité inspirée par les sonorités d'Europe de l'Est comme le klezmer, cette musique traditionnelle et instrumentale ashkénaze. Et enfin, mercredi, de ciel bleu, ciné quand on veut. Aujourd'hui dans les salles, on va chercher son âme. Dans les froids, dans les flammes, avec Aline, le tant attendu sixième long-métrage de Valérie Lemercier, sous forme de biopic fantasmé consacré à la grande Céline, entre métamorphose spectaculaire et émotion vocale. La cinéaste met en scène sans ironie, mais avec tendresse et humour, le parcours d'une jeune Québécoise, avec juste un peu d'or autour de sa voix. Et l'autrice de BD, Pénélope Bajieu, invitée de Boomerang, ce matin pour parler de son nouvel album L'Estrade, qui paraît donc aujourd'hui. C'est un livre qui interroge, à mon sens, ce qu'il est possible de raconter par le dessin. C'est ça que j'ai trouvé absolument fascinant. Je pense à tous les moments où vous n'utilisez, pour ainsi dire, pas de texte, comme dans Une histoire de mes doigts, par exemple, ou Une histoire de mes grands-parents. Comment fait-on pour raconter une histoire où le dessin se suffit à lui-même?
Ben c'est l'intérêt de la bande dessinée, c'est d'avoir ce couteau suisse pour, selon ce qu'on a besoin de raconter, pouvoir choisir dans une palette tellement large d'images silencieuses, de dialogues très nourris, de un peu des deux, de encore autre chose. En fait, tout est possible et c'est pour ça que je pense que c'est la façon la plus pratique de recracher ce qu'on a dans la tête et de faire une mise en scène.
Et ça pose une question formidable qui est, quand est-ce que vous avez besoin des mots en fait?
Quand ils disent quelque chose de différent de l'image. C'est-à-dire que si c'est redondant, si l'image et le texte disent la même chose, c'est qu'il y en a un d'eux qui doit dégager.
Est-ce qu'il y a une valeur émotionnelle aux mots aussi? Est-ce que les mots consolent, par exemple?
Là, en l'occurrence, pas mal, parce qu'il y a des dialogues que j'ai pu remettre en scène, qui sont des choses qui me font du bien encore aujourd'hui. Et c'était assez intense de les remettre à l'écrit. Oui, bien sûr.
Je vous pose la question, Pénélope Bajieu, parce qu'il est beaucoup question de chagrin et de consolation dans ce livre. Je pense par exemple à la mort de votre grand-mère que vous racontez. Votre grand-mère qui demande à mourir et à qui vous répondez « Mais comment je vais faire quand je serai triste ?»
C'est une conversation qu'on a vraiment eue. Donc j'ai eu cette chance, c'est que j'ai eu ma grand-mère très tard encore. Donc j'ai pu parler avec elle quand j'étais jeune adulte et qu'elle était en train de mourir très lentement et qu'elle en avait vraiment marre et que moi j'étais un gros bébé qui voulait pas qu'elle parte, donc on a eu une conversation un peu irréelle sur son lit d'hôpital où vraiment très très pragmatiquement je lui ai dit mais techniquement comment je vais faire quand tu vas être morte, comment on va faire, et on a parlé de ça.
C'est marrant que vous disiez gros bébé. Dans quelle mesure grandir c'est apprendre à laisser partir ce qu'on aime aussi?
C'est uniquement ça, c'est ce dont je me suis rendu compte quand j'ai relu l'ensemble du livre à la fin. Je me suis dit, il y a quand même un thème récurrent qui est apprendre à perdre ce qu'on aime, une partie de soi, et puis se rendre compte qu'en fait c'est pas la fin du monde. À chaque fois j'avais l'impression que c'était la fin du monde, perdre mon chat, fin du monde, perdre ma grand-mère, comment je vais faire, perdre une part de mon innocence quand même, comment je vais faire. Pouf, en fait ça passe, on apprend.
Et quelle présence est-ce qu'elle était, cette grand-mère?
Oh, c'est pour ça que c'était important pour moi que ça fasse partie du livre aussi, pour comprendre comment je suis aujourd'hui. C'est tellement, tellement de tendresse et d'amour pendant une moitié de ma vie que ça continue à m'accompagner tout le temps en fait.
L'écrire, la dessiner, c'est aussi une façon de faire en sorte qu'elle continue à vous accompagner?
J'avais triché parce que j'avais déjà dessiné beaucoup ma grand-mère, parce que c'était un peu l'héroïne de Sacrée Sorcière, ma bande dessinée précédente.
C'est ça que je me disais.
C'était déjà elle. Alors là, ça avait été assez intense de passer un an et demi à la dessiner. J'avais l'impression qu'elle était là.
Ne me dites pas qu'elle avait la même coupe de cheveux.
Bah, franchement, sur la fin, un peu. Et puis un peu avec des colorations ratées, mauves. Mais c'était, je me faisais plaisir en l'ayant à côté de moi pendant tout le temps où je dessinais. Et c'était chouette. C'était comme la convoquer un peu. Et là, bah, c'est différent parce que je l'ai dessinée dans la fin de sa vie. Donc c'est quand même moins... Mais c'était quand même chouette de la dessiner. En fait, c'est aussi ça, la magie et la chance qu'on a, les dessinateurs.
Et j'ai l'impression que c'est pas la seule femme que vous dessinez, que vous convoquez. J'ai l'impression que ce livre, c'est aussi un hommage à toutes les femmes de votre vie. Votre grand-mère, votre mère, mais aussi votre sœur aînée. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Pour moi, ce trio, ma grand-mère, ma mère, ma sœur, c'est le trio qui m'a élevée, vraiment. Et chacune a apporté un tiers de ce dont j'ai besoin aujourd'hui, tous les jours.
Et le père, alors?
Le père, oui, bon, bah déjà, je lui dois ma vie, c'est sympa.
C'est
toujours sympa, la moitié de moi. En plus, physiquement, vraiment plus que la moitié, parce que je ressemble vraiment beaucoup à mon père. Il m'a légué un amour de la musique et plein de choses, et plein de traits de caractère. Mais il faut quand même rendre à ma mère ça. Mais quand même, elle est toute seule.
Donc, il y a un moment qui me passionne dans le livre, c'est que votre père, vous étiez persuadé qu'il vous avait laissé un frère caché. Avoir un frère, quel désir est-ce que ça a été pour vous?
Alors, être trois avec ma sœur, de me dire qu'est-ce que ça aurait fait qu'il y ait quelqu'un après moi, que je sois pas la petite, ça aurait été, j'aurais adoré voir ce que ça faisait être la grande sœur, oui. Parce que je me sentais une âme de grande sœur, et je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé après avec des lectrices plus jeunes, c'est qu'en fait j'ai hyper envie d'être une grande sœur.
Vous êtes une bonne sœur, vous?
Moi je suis super comme sœur. Franchement, appelez ma sœur, elle vous dira, je suis vraiment une super sœur.
Et à quoi ça tient?
Bah, j'organise les meilleures surprises, je gère les anniversaires, j'oublie jamais les fêtes, je suis une super sœur.
Dans quelle mesure être sœur, agir en sœur, envers les autres femmes notamment, c'est quelque chose qui s'apprend? C'est quelque chose que vous aussi vous avez dû apprendre, Pénélope Bagieu?
J'ai eu la chance d'avoir quand même une grande sœur qui était très... qui a toujours pris ce job très au sérieux, toute petite. Ma mère m'a quand même raconté que quand j'étais bébé et que le matin je pleurais dans mon lit, ma sœur qui avait 5 ans de plus que moi, donc qui était toute petite, se dit bon bah je me lève et je vais lui faire un biberon et puis je m'occupe d'elle parce que bien que quelqu'un s'occupe d'elle.
Vous voyez, pendant que mon frère essayait de me noyer dans la baignoire.
Voilà, non mais les grandes sœurs, hein, c'est un truc...
C'est autre chose.
Ouais. Ouais.
On va pas faire de caricature, mais bon, moi j'ai quand même été victime d'une tentative de meurtre.
Moi aussi, elle a quand même essayé de se débarrasser de moi.
Ah,
aussi.
Quand même.
Ouais, bah ça c'est quand même. Je pense.
Alors, quel était le procédé? Parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne en ce moment.
Je crois qu'elle avait demandé à ma mère quand est-ce que je repartais. Voilà, elle est sympa la petite sœur, mais quand est-ce qu'elle repart?
On va la ranger là, ça suffit. En fait, c'est peut-être ça ce livre, c'est une histoire d'apprentissage au pluriel. Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre?
Continuer ce chemin-là. Je pense continuer à me libérer des choses qui sont vraiment une perte de temps, qui sont toxiques, et continuer à apprendre à utiliser mon énergie pour les autres, en fait.
Surmonter la fatigue.
Apprendre à dormir moins, c'est vraiment ça que j'aimerais. Apprendre à avoir besoin de moins de sommeil.
On va reparler d'apprentissage, de transmission, juste après un titre sur lequel vous avez essayé d'apprendre à draguer, Pénélope. Outcast, Hey Ya, en 2003. Vous êtes sur France Inter avec Pénélope Bagieu. Vous écoutez Boomerang, Shake It, Shake It. 1, 2, 3, 4. My baby don't mess around because she loves me so.
Why, yo, why, yo, why, yo, why, yo, why, yo, are we so in denial? We've been knowing.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Quelque part physiquement, c'est la copine de lycée. Hein. C'est celle des premières fois, des premières cigarettes sous l'abribus, des mélodies à la flûte à bec, celle des premiers chagrins d'amour, des premiers bagues blancs, des premières soirées, quelque part entre Ginger Spice, Willow dans Buffy contre les vampires et la délicieuse Frenchie dans Grease. Avec un petit côté Madame Mimoy, pas se mentir non plus, tout en chemisier à fleurs, noir à fleurs, l'autrice Pénélope Bagieu, invitée de Boomerang pour les Strats, cet album qui ne s'est pas composé du jour au lendemain, vous le disiez, mais par strates. Justement, comment ces strates en sont-elles venues à créer un tout? Comment vous avez fait? Vous avez redessiné, en fait?
J'ai redessiné les histoires que j'avais écrites il y a très longtemps, mais par souci d'homogénéité, parce que je trouvais que ça choquait. On sentait qu'il y avait des choses qui avaient été dessinées avant, parce que, Dieu merci, j'ai progressé en dessin.
Oui, c'est ça qui est fascinant. Quel regard est-ce que vous portiez, en fait, sur la façon dont votre dessin était, dans la façon dont il a évolué aussi?
C'est vraiment technique, hein. C'est que je trouve que c'est plus juste, que c'est plus fin, qu'il y a des choses aussi vraiment techniquement qui sont mieux. J'ai vraiment des perspectives foirées il y a 5 ans encore, donc voilà, ça travaille encore. Mais pour le coup, sur un sujet comme celui-là, mon écriture n'a pas changé. Et la mise en scène et la façon dont mes souvenirs maintenant sont figés dans ma tête depuis le temps ne changent plus. Parce que c'est que des histoires très anciennes, donc elles ne changent plus maintenant.
Au fond, qu'est-ce qui fait un bon dessin, Pénélope Bagieu?
Qu'est-ce qui fait un bon dessin? Je sais pas, moi, en tant que lectrice, ce qui fait un bon dessin, c'est quand j'ai l'impression que la personne que je regarde dessiner existe. Voilà, c'est pas forcément beaucoup de traits, mais elle a l'air réelle, elle a des expressions de visage qui font qu'elle a l'air d'être une vraie personne.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, comme pour l'album California Dreaming, consacré à Mama Cass, la chanteuse des Mamas and the Papas, pour lequel vous avez reçu à ce micro, les dessins sont en noir et blanc. Qu'est-ce qu'il permet, le noir et blanc?
Je trouvais qu'il permet d'avoir moins de transformation entre l'idée que j'ai et le résultat final. C'est aussi pour ça que je voulais que l'objet soit un carnet, parce que je me suis dit, si à la toute fin, après avoir craché tout ça, je me dis, alors, quelle couleur le ciel? Pourquoi en fait? C'est complètement artificiel, on s'en fout, il n'y a pas besoin de rajouter de la couleur à un souvenir qui était comme ça, et je trouvais ça plus organique et plus sincère.
C'est drôle, vous avez dit, je voulais que l'objet soit incarné. C'est vrai que c'est incarné, mais j'avais entendu, je voudrais que l'objet soit incarné. Et il est plus incarné que jamais, celui-là. Avec quoi est-ce que vous dessinez au juste? Quel est votre instrument de prédilection?
Un iPad. Désolée pour la mystique de l'artiste.
Mais il y a un stylo pour l'iPad.
Oui, quand même, il y a un stylo.
Vous dessinez pas avec votre doigt,
Pénélope. Non, c'est vrai.
Et ça a toujours été le cas?
Non, California Dreaming, par exemple, c'était du vrai crayon avec une gomme et de la laque à cheveux pour fixer mes pages. Mais avec le temps, j'ai évolué vers l'iPad qui rend plus ou moins le même aspect et qui a l'avantage de pouvoir être dans mon sac et de pas m'en mettre plein les doigts.
Vous ne perdez rien? En qualité?
Non, c'est incroyable. Ça m'ennuie parce que j'ai l'impression d'être en train de faire une pub pour iPad, donc je ne vais pas aller plus loin.
On va dire une tablette.
Mais c'est vraiment pratique.
C'est intéressant parce que dans ces strates, en fin de compte, Pénélope, vous parlez, pour ainsi dire, pas du tout de votre parcours de dessinatrice. C'est comme si le dessin n'existait pas, que ce n'était pas un sujet.
Mais non, mais de la même manière que ce n'est pas un sujet, le fait que je mange et que je dorme, c'est que c'est ce que je fais toute la journée, tout le temps, depuis que j'ai 3 ans. Donc effectivement, ça ne me vient pas à l'esprit de faire une histoire là-dessus. Pour dire, et puis il y a le dessin dans ma vie, parce que évidemment que c'est ma vie. Donc,
mais pourtant,
c'est vrai que j'aurais pas pensé à en parler, en fait.
Mais le simple fait de dessiner, ça a fait aussi ce que vous êtes aujourd'hui, non?
Oh, mais bien sûr, ça a été ma béquille, mon réconfort, mon doudou, mon ami, ça a été toute ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être de nouveau une enfant plusieurs heures par jour.
C'est jamais une épreuve de dessiner?
Non, vraiment jamais. J'aime bien la mythologie de l'écriture dans la souffrance et tout ça, mais pas du tout. Le temps passe vite. Quand je suis en train de dessiner, le reste du monde n'existe pas. Je suis toute seule avec cet ami merveilleux, quoi.
Est-ce qu'il arrive que vous dessiniez comme avec un ami pour vous faire rire?
Ouais, mes dessins me font rire. Je suis hyper bon public avec mon propre travail. Quand j'ai fini de travailler, le lendemain matin, je regarde ce que j'ai fait la veille comme une bonne enfant appliquée. Je relis mes cours de la veille et généralement, j'ai un petit gloussement. Je fais génial. Je trouve ça super.
Et quand est-ce que vous faites rire? Dans quelles circonstances?
Quand j'arrive à bien attraper une expression de visage marrante.
C'est de l'autodérision en fait.
Mais bien sûr, et c'est le danger hein, toujours d'être trop dans l'autodérision, d'avoir comme seul ressort humoristique de se faire du mal. Je ne vais pas citer Anna Gatsby, mais voilà, c'est quand même. Il faut faire attention à ça aussi. Mais c'est quand même le plus marrant. Enfin, moi, ce qui m'a toujours fait rire en bande dessinée, c'est Gottlieb. C'est savoir avoir exactement la bonne expression de visage, le bon sourcil, le bon truc qui fait que c'est à mourir de rire. Et quand les dingos dossiers, encore maintenant, la même image pour la 8000e fois, me fait rire.
Pénélope Bagieu, vous nous avez écrit un texte pour terminer cette émission et j'aimerais que vous nous le lisiez si vous voulez bien.
Oui, c'est un texte que j'ai, qui est un petit peu une synthèse des questions que me posent souvent les jeunes filles et très jeunes femmes qui ont envie de devenir autrices de bande dessinée et qui ont plein de questions, et j'ai fait un petit pot pourri.
C'est bien.
Oui. Alors, déjà, est-ce que faire de la BD, ça s'apprend? Donc ça, vrai et faux. Parce que de tête, je peux citer comme ça au moins 5 auteurs qui sont autodidactes. Et la meilleure façon d'apprendre à faire des BD, franchement, c'est faire des BD. Et en lire. Plein. Prendre des cours, ça permet de se rassurer, de se sentir plus armé, mais ça donne pas de diplôme d'auteur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de certificat ou de plaque qui atteste que ça y est, enfin, on est auteur. En fait, on écrit quelque chose, et si c'est lu par une personne, hop, félicitations, on est auteur. C'est un métier solitaire. Vrai, mais mon intuition me dit que si c'est une voix qui attire les gens, c'est que globalement, ils aiment bien être chez eux, à travailler en pigé, à parler à leur chat. C'est mal payé, ça c'est vrai. Et en plus, comme ça demande beaucoup de temps, c'est très dur de faire un autre métier en même temps. Parfois, on n'a pas d'inspiration. Vrai, et quand ça arrive, surtout, il faut pas se forcer. Il faut travailler à autre chose, et puis voilà. Moi aussi, j'ai été bercée à la mythologie de l'auteur qui se lève à 5h du matin, qui vente ou qui neige, et qui écrit 2h tous les jours, car l'inspiration est un muscle, blablabla, mais c'est faux. Archi, archi faux. En tout cas, pas pour tout le monde. Et il vaut mieux attendre la bonne idée. Celle qui picote, celle qui fait se relever à minuit pour vite, vite noter un dernier petit truc avant d'oublier. C'est dur de trouver un bon sujet. Alors, vrai, mais on s'en fout un petit peu en fait du sujet. Un petit garçon qui parle à son petit grand peluche, par exemple, c'est pas un scénario révolutionnaire, et pourtant, Calvin et Hobbes, c'est une des meilleures séries BD du monde. En fait, quel que soit le sujet, ce qui est unique, c'est ta façon de le raconter. Parce que personne ne peut raconter une histoire exactement comme toi. Que ce soit Autant d'emporte le vent, une blague de Toto ou Comment t'as raté le bus ce matin, c'est ta manière de le raconter, et tes intonations et ta patte. Et c'est sûr qu'il y a, quelque part, quelqu'un, possiblement même plusieurs personnes, qui va accrocher avec cette manière de raconter, qui va aimer comme t'installes le suspense, comme tu décris les décors, comme tu fais la voix du père de Toto qui lui demande d'aller acheter de la bière. En fait, la difficulté, c'est accéder à ces personnes qui vont avoir envie de t'entendre, enfin de te lire. Mais ça viendra forcément. C'est dur de créer un bon personnage. Alors faux, en fait, il faut juste que tu l'aimes très fort. Même si c'est l'infâme salopard, menteur et voleur, il faut qu'en fait, toi, tu le trouves marrant, au fond. Un peu cool, quoi, que t'aies envie de le connaître en vrai. Et il faut, d'ailleurs, parce que vous allez passer beaucoup de temps ensemble avec ton personnage. Si on se dit que tu vas le dessiner, en moyenne quoi, entre 5 et 8 fois par page, pendant une grosse centaine de pages, si tu peux plus blairer au bout de 3 jours, ça va être compliqué de passer un an et demi avec. Il n'y a pas de place pour tout le monde, enfin. Et ça, j'ai pas la réponse. C'est vrai qu'il y a déjà des livres sur à peu près tout. Et tu peux penser que tout a déjà été dit par d'autres. Mais ton histoire à toi, elle vaut celle des autres. Elle est pas moins intéressante que celle des autres. On te dit qu'il y a pas de place pour toi. Mais en fait, cette place, tu vas la prendre. Tu vas la créer de force, qu'ils le veuillent ou non. Parce que des tas de gens ont envie d'entendre ta voix. Et c'est peut-être la seule chose que je peux te conseiller de te répéter quand tu es dans une phase de doute existentiel et que tu te dis, comme nous toutes, à un moment ou un autre, que tout ce que tu fais est complètement nul. Peu importe, en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de te lire. Voilà.
Vous vous laissez te poser ces questions, vous, ouais, jeune autrice de BD.
Voilà, mais pas que jeune, vieille autrice de BD aussi. Ouais, oui.
Alors, qui pour vous répondre? Qui pour faire ce que vous venez juste de faire?
Les autres autrices. Vraiment. C'est ça aussi la force d'être autrice de bande dessinée. C'est qu'on est nombreuses et qu'on est fédérées et qu'on apprend des jeunes autrices. Et que c'est vraiment une boucle infinie d'apprentissage, parce qu'on passe par les mêmes coups de mou, les mêmes doutes, les mêmes questions, les mêmes joies, les mêmes colères, et qu'en fait, notamment grâce aux réseaux sociaux, on peut se parler. Et ça, ça a changé ma vie.
Merci infiniment, Pénélope Bagieu, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Les Strates, votre nouvel album, sort aujourd'hui chez Gallimard. C'est un événement. Je rappelle aussi que l'intégrale des Culottés vient de reparaître. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux salutaires, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux. Que je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains. je fais comme si c'était rien, c'est bien. On s'est dit volontaire qu'on irait bien plus loin. Je lançais des adieux salutaires, je laissais faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette truie. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état délire.
Permis de construire, Hervé, 9h40 sur France Inter, et Sonia Devillers, l'instant M, qui nous parle de pénurie de papier aujourd'hui, Sonia.
Ouais, on va parler papier, petit papier, comme disait Régine. Salut Augustin.
On vous écoute, à demain.